Madame de Mully.
Bonsoir. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, mesdames, messieurs les adjoints et les élus, mesdames, messieurs. Je m'exprime au nom des 5 élus du groupe d'opposition Agir Ensemble. Nous tenons tout d'abord à féliciter le service des finances pour la qualité du document distribué et le travail effectué. D'un commun accord, nous avons décidé de vous poser quelques questions qui nous paraissent fondamentales dans le cadre d'un débat et nous nous plaçons uniquement sur le plan local, c'est-à-dire ce qui concerne la ville de L'Isle-et-la-Noix et ses habitants. Ce ROB contient des points positifs, même si ce n'est pas seulement sur l'Isle-et-la-Noix, l'analyse du contexte économique et financier, les principales dispositions du projet de loi de finances 2020 et quelques bonnes mesures comme la diminution de la taxe foncière sur le non bâti ou une légère hausse des subventions aux associations. Mais nous avons toujours les mêmes inquiétudes sur les dépenses de fonctionnement. Alors, vous dites qu'il y a une amélioration de l'autofinancement, je veux bien, mais page 23, vous dites vous-même un autofinancement fragile. Bon, donc, il y a quand même cette fragilité, on est bien d'accord, de l'autofinancement. Et également sur les sommes empruntées par rapport aux prévisions. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce que vous affirmez, page 7, sur les aides facultatives octroyées par le CCAS. Vous nous l'avez expliqué en commission. Hein, vous nous avez expliqué cette augmentation de 61 229 euros à 82 322. J'en arrive simplement au budget. Alors, moi, j'ai étudié le document, mais le document qu'on a eu. C'est-à-dire, excusez-moi, d'abord dans ce rapport, la rétrospective et ensuite les orientations pour 2020. Alors, on constate de 2018 à 2019, je prends la dernière année, que les recettes d'exploitation sont en progression de 2,75 malgré une baisse de la DGF qui est de 38 000 euros. La fiscalité directe locale, avec une hausse de 2,34%, reste le premier poste de recette de la collectivité, hausse due aux revalorisations annuelles des bases d'imposition fixées en fonction de l'inflation. Les autres recettes fiscales enregistrent une augmentation de 18,33%, qui provient surtout des droits de mutation à titre onéreux, en lien avec l'augmentation des transactions immobilières. Les dotations et participations sont également en hausse de 3,36%. Et heureusement qu'il y avait cette augmentation, car les dépenses réelles de fonctionnement augmentent, elles, de 2,56% entre 2018 et 2019, avec une évolution de la masse salariale de plus 3,30%. Et ce qui reste préoccupant, ce sont ces dépenses qui restent restreintes à cause des charges de personnel. Certes, on ne peut pas comparer à la moyenne nationale qui est de 50,5%, nous sommes environ à 62%, car c'est exact que nous avons beaucoup de services que d'autres communes n'ont pas. Une ATSEM par classe, une restauration municipale excellente, la crèche. Nous rappelons que nous avons mis également en place le bio lors du mandat précédent, malgré les critiques de l'opposition de l'époque. Bon, il y a aussi la revalorisation du point d'indice, les avancements de carrière, tout ça c'est évident. Mais vous dites vous-même que la maîtrise des dépenses du personnel est un enjeu majeur, qu'il faut attention. Alors, pour les heures supplémentaires, elles ont baissé en 2018 de 5,96%, mais en 2019, il y a une hausse de 12,28%, c'est-à-dire 100 000 euros en plus. Là, déjà un problème. Alors, en fait, le gros problème, c'est comment comptez-vous maîtriser ces dépenses de personnel sans diminuer, on est bien d'accord, les avantages du personnel et les services rendus où ils soient, tout en sachant qu'avec de nouvelles constructions, vous allez devoir accueillir davantage de personnes, par exemple, dans les clubs sportifs, dans les associations culturelles, ce qui risque, si vous ouvrez des salles plus longtemps aussi, d'augmenter les dépenses de fonctionnement. Vous allez devoir offrir plus de services aux Lissois. De plus, vous aviez dit, du fait de l'importance grandissante des dépenses de personnel, vous avez été contraint de baisser les charges à caractère général. Elles ont baissé de 5,16% de 2016 à 2017. Vous prévoyez moins de 48% en 2018, moins 1% en 2019. Or, ce n'est pas le cas puisqu'elles repartent à la hausse et nous sommes à plus de 14% entre 2018 et 2019. Donc, comment allez-vous, et je vous cite, hein, effectuer votre effort sans précédent de recherche d'économie et d'optimisation sans entraîner une qualité moindre du service public? Deuxième inquiétude, c'est l'autofinancement. Même là, s'il y a, entre guillemets, je dirais une accalmie, vous le dites vous-même, cet autofinancement est fragile. Et la progression de votre autofinancement dans les années à venir semble ardue du fait de la réduction des marges de manœuvre, que ce soit en recettes ou en dépenses. Et dans le document, vous parlez de recenser des pistes permettant de dégager des marges de dépenses et d'optimiser les recettes. Est-ce qu'on pourrait savoir quelles sont ces pistes? De la question que je vous pose, hein, quelles sont les pistes que vous prévoyez de ce point de vue-là? Bon, l'état de la dette est en hausse, mais ça s'explique par le projet Paul Bert et l'école maternelle, 9 529 073 euros. On constate simplement, et comme le disait M. Strat, que la dette augmente lorsqu'il y a un gros projet à financer dans la commune, nous l'avons vu, avec le dojo. Ensuite, le problème de l'emprunt. L'emprunt prévu au BP 2019, 3 332 000 euros. Emprunt levé, 1 600 000 euros, avec une différence de 1 732 000 euros, c'est-à-dire même pas 50%. Certes, vous avez dit que vous prévoyez plus avant d'avoir les subventions, ça se comprend, mais là, on s'interroge sur la sincérité du budget et des prévisions, car l'écart est quand même trop important. Alors, en ce qui concerne les éléments de prospective et d'orientation budgétaire, vos objectifs, c'est de maintenir la qualité du service public, nous sommes entièrement d'accord, tout en contenant les dépenses, nous sommes également d'accord, mais dites-nous comment vous allez faire face aux dépenses incompressibles. Vous voulez ensuite continuer les actions en faveur du développement durable, bien entendu, c'est une nécessité. Nous regrettons d'ailleurs qu'elle n'a pas été mise en valeur dès le début du mandat. Pour atteindre ces objectifs, vous prévoyez une hausse des recettes de fonctionnement de 1,76%, avec une faible baisse 0,26% de la DGF, une revalorisation des bases des valeurs locatives, 0,9% pour la taxe d'habitation, 1,2% pour la taxe foncière. Et vous avez une baisse de 1% de la taxe foncière sous le nom BATI, qui rapporte à la commune 23 984 euros, donc vous aurez 239 euros en moins, si mes calculs sont bons. Il n'y a pas de modification des autres taux d'imposition de la taxe d'habitation et taxe foncière. Et là, on peut s'en réjouir. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles progressent encore. Elles progressent de 2,43%, masse salariale de 2,14%. Comment faire pour contenir la progression de la masse salariale? Et en plus, on constate une hausse de 5,71% des charges à caractère général. Contenir des dépenses, là on peut s'interroger. Vous allez me dire, bien sûr, elles sont impactées par des facteurs externes et c'est évident que le bon fonctionnement des services pour les Lissois, pour leur bien-être, doit se faire. Les charges de gestion courante restent stables, montant inchangé des subventions CCAS et légère augmentation des subventions aux associations. Quant aux recettes d'investissement, l'emprunt prévu est de 4 691 000 euros avec un taux d'exécution de 100% des investissements et des reports. Je crois que ce ne sera pas le cas. Alors, pour les dépenses d'investissement, si on compare le PPI 2018-2021 annexé au document qui prévoit pour 2020 5 719 000 euros Et si on reprend le PPI 2018-2021 annexé au document au ROB de 2019, nous avions 4 053 000 euros, soit une différence de 1 660 000 euros, bien sûr en regardant plus attentivement les deux PPI sur le projet Paulbert, version ROB 2019, 8 500 000, ROB 2020, 9 742 000, soit une différence d'1 242 000 euros. Bon, bien sûr que c'est provisionnel, il y a des frais certainement supplémentaires, des choses qu'on va faire en plus, mais on le constate. Alors, vous avez évoqué 163 000 euros de travaux pour l'école élémentaire pour un projet de rénovation. Là, est-ce qu'on peut avoir là aussi quelques petites explications complémentaires ? Et enfin, je termine par la maquette budgétaire de 2020. Recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement, plus 332 000 euros. Recettes d'investissement moins dépenses d'investissement, moins 1253, soit pour équilibrer reprise excédent de 1 253 000 moins 332 000, ça fait 921 000 euros. Sachant que toutes les dépenses d'investissement ne sont pas toutes réalisées, nous pourrons conclure une fois de plus que l'emprunt prévu ne sera pas levé en totalité et que, encore une fois, la maquette budgétaire n'est pas sincère. La sincérité d'un budget, bien entendu, là-dessus, vous gonfler un peu les sommes d'emprunt que jamais vous ne levez. Merci pour vos réponses. Il y a surtout deux, trois points. Et nous sommes quand même de plus en plus inquiets pour l'avenir. Merci.